va passer au prochain intervenant, hein, Cédric Chauvin. Donc il va nous donner un petit peu le point de vue maintenant du postdoc pour les lettres, en fait, ou les sciences humaines en général. Et en fait, on reviendra, donc comme il doit partir d'ici peu, on reviendra après, on va faire le petit déj après son intervention, on reviendra pour si vous avez d'autres questions, si on veut discuter sur le postdoc. Voilà, à toi Cédric.
Bon, merci beaucoup.
Normalement, regarde si c'est rouge.
J'ai été contacté par la personne qui chapeaute un petit peu ces petits déjeuners, parce que je pense que je fais partie des rares personnes à Montpellier 3 à avoir fait un postdoc, et en particulier dans une discipline où il y en a très très peu, en fait, c'est-à-dire en lettres. Donc ça veut dire que j'ai pas, parce que c'est quelque chose qui est très très peu développé, les postdocs en sciences humaines, en tout cas au moins pour les disciplines que je connais le mieux. Donc ça veut dire que moi j'ai pas du tout un discours aussi général qui s'appuie du coup sur quelque chose qui est quasiment pratiqué par tous, comme ça a été présenté par l'intervenant précédent, en fait. C'est à dire que du coup je m'appuie principalement sur une expérience personnelle, parce que y a finalement un certain nombre d'écarts qui sont vraiment flagrants, hein, entre les sciences humaines et ce qui peut se faire à Montpellier 2. Par exemple, bon, alors, concrètement, moi je suis enseignant, mais pas enseignant-chercheur. Je suis docteur, j'ai fait un post-doctorat, mais pour l'instant j'ai pas de poste d'enseignant-chercheur. C'est-à-dire que je suis PRAG. Ce qu'on appelle PRAG, ça veut dire professeur agrégé. C'est-à-dire que je suis agrégé de lettres, puis je suis affecté dans le supérieur pour enseigner à Montpellier 3 en lettres. Je suis agrégé des classiques, je suis docteur en lettres modernes, et voilà. Il y a tout un tas de points, en fait, hein, qui ont été indiqués tout à l'heure et sur lesquels il y a des écarts qui sont évidents. C'est-à-dire que si on regarde la liste des enseignants-chercheurs en lettres, en langue, en histoire, en philo, etc., à Montpellier 3, il y en aura une infime minorité qui aura fait un post-doctorat, déjà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y en avait une majorité. Hein, tout le monde, bon, voilà. Une toute petite minorité. Par ailleurs, au moins pour ces disciplines-là, il n'y a pas de post-doc à proprement parler du côté privé. Ensuite, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas non plus, bon, en gros c'est très peu développé, il n'y a pas ce système non plus de financement qu'on demande à une institution nationale pour proposer sa présence dans un laboratoire à l'étranger. C'est-à-dire que nous, ce qui existe, les quelques trucs, si j'ai bien compris, hein, les quelques choses qui existent, et ce à quoi j'ai participé, puisque j'ai fait un postdoc de quelques mois, d'un semestre, c'est des bourses postdoctorales, en fait, qui dépendent d'un laboratoire, d'une université ou d'une institution, qui sont généralement ouvertes pour 6 mois, maximum 1 an ou 2 ans, en France ou à l'étranger, et donc là, en candidate. Concrètement, moi, après ma thèse, j'ai candidaté sur 3 ou 4 bourses postdoctorales, une au Québec, une en Suisse, une en France, pour les postdoctorats qui avaient lieu au Québec et en Suisse, il y avait une place sur 1 an ou 2 pour plusieurs centaines de candidats. C'est-à-dire que du coup, il y a un écrémage qui est énorme, hein, au niveau du dossier, au niveau des lettres de recommandation, etc. C'était des bourses postdoctorales sur projet de recherche, a priori dans la continuité, hein, par contre, de la thèse. Il existe également quelques bourses postdoctorales à sujet obligé, hein, c'est-à-dire où on nous indique clairement dans quelle orientation scientifique il faut se positionner, mais généralement c'est plutôt sur proposition de projet, mais encore une fois c'est rare ici. Je ne connais pas d'organisme ou de site internet qui rassemble les bourse postdoctorale pour les sciences humaines. J'en connais en lettres. Il en existe sans doute dans certaines disciplines de sciences humaines qui rassemblent un certain nombre d'informations, mais disons qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de centralisation, hein, clairement, des informations. Donc, alors, voilà, et puis pour enfoncer, je suis vraiment désolé, hein, c'est peut-être un petit peu déprimant pour les... Il y a des gens de Montpellier, c'est pas là ?
Oui.
Ouais, bon. Bon, mais cela dit, ça dépend vraiment des disciplines. Moi, je parle des disciplines que je connais en l'occurrence, c'est-à-dire lettres, langues, voilà, hein, histoire, philo, ce genre de choses. Je ne sais pas exactement comment ça se passe en psycho, donc là, je peux difficilement vous renseigner, par exemple. Le post-doc que j'ai fait, je l'ai fait à l'école à Normale Sup à Lyon, hein, à l'école normale supérieure de Lyon. Et c'est... Je m'étais renseigné, hein, mais elles étaient quasiment invisibles, c'est pour ce postdoctoral. C'est-à-dire qu'en gros, elles étaient plus ou moins réservées à un pool de personnes qui généralement sortaient de Normale Sup et qui avaient besoin de continuer, après leur thèse, encore à faire un petit peu de recherche avant leur recrutement. Quoi. Moi, si. Et là, c'est vraiment particulier. Hein, pour être tout à fait honnête, le postdoctorat que j'ai eu pendant 8 mois à l'École normale supérieure, c'était un ancien directeur à moi qui m'a contacté parce qu'on avait fait un bouquin ensemble et qu'il savait que j'étais entre le doctorat et en sciences humaines, la perspective qui est derrière, c'est-à-dire la perspective de l'enseignant-chercheur et la recherche de poste de maître de conf de Prague, et que dans cet intervalle, du coup, il m'a proposé de faire quelques mois de post-doc, en fait. Donc ça s'appelle de la cooptation. Très clairement. Très clairement. Alors, c'est pas général du tout, mais en tout cas, c'est bon. J'imagine que ça existe aussi, hein, rassurez-moi. Ça existe, hein, à Montpellier, d'autres genres de choses en sciences.
Ouais, moins pour les post-docs en sciences, parce qu'il y en a beaucoup, en fait.
Bah, voilà.
Il y a une offre énorme, et il y a beaucoup de gens sur le marché, donc...
Ouais.
C'est pas...
Alors que bon, là voilà, donc c'est assez particulier. En plus, ce qui était encore plus particulier, c'est que en maîtrise et en maîtrise, en fait, j'avais travaillé en grec ancien, parce que je suis agrégé d'être classique. Mais j'ai fait une thèse en lettres modernes sur la littérature du XXe siècle, hein, puisqu'en lettres, quand on fait une thèse, c'est qu'on travaille pour ceux qui se demandent ce qu'on fait en recherche en lettres. Et puis, bon, c'est pas scandaleux de se poser la question. Si ça fait toujours un peu bizarre, c'est que généralement on travaille sur des points d'histoire littéraire, sur des questions de littérature, sur des périodes en particulier, l'épopée et le roman chez Jean Giono, Julien Gracq et tel autre auteur, par exemple, ça c'est ma thèse. Voilà. Tout un tas de choses. En histoire, en bio, hein, c'est toujours des questions plus ou moins d'histoire de la pensée ou d'histoire en général. Ben, j'ai fait ma thèse sur une question de littérature du XXe siècle. Ben, quelques mois plus tard, je suis parti en postdoc à l'ENS pour faire l'édition et participer à une édition de texte grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire un truc qui n'avait rien à voir avec ma thèse, en fait. Hein? Mais qui, par contre, était lié à ce que je faisais avant de basculer du côté des lettres modernes quand j'étais en maîtrise et que je faisais du grec ancien. Et à l'époque, j'avais fait une traduction, j'avais publié un bouquin, etc., avec la personne avec qui j'ai continué à travailler en réalité à la façon d'une collaboration, mais dans un cadre qui était le cadre d'une bourse postdoctorale. Voilà.